sommaire. C'est parti pour la troisième édition des états généraux du secteur des mines au Nord Kivu. Ouvert hier à Goma, ces travaux vont évaluer les activités minières dans la province. Écho d'économie de ce soir vient aussi sur l'interpellation par l'Assemblée nationale du gouverneur de la Banque centrale du Congo sur la situation à la BIAC. Le député Henri Thomas Lokondo, initiateur de la démarche, voudrait avoir des éclaircissements au sujet des refus de la BCC de valider la décision des actionnaires de la BIAC qui ont décidé de dissoudre volontairement cette institution financière. Autre actualité, c'est cette tribune populaire organisée à Lubumbashi par le bureau de liaison avec le Parlement, une structure de la SENCO sur la contribution de la population à la lutte anti-fraude et anti-corruption. Bienvenue à tous. Les travaux de la troisième édition des états généraux du secteur de mines en Nord Kivu ont bel et bien commencé hier mercredi à Goma. Ces travaux ont pour objectif d'évaluer les activités minières en Nord Kivu. Déjà, le ministre provincial de mines a révélé que les minerais ont rapporté sur une période de 3 ans plus de 100 millions de dollars américains en termes de devises dans l'économie de cette province. Mais aussi, ces minerais ont eu un impact négatif sur l'environnement. Plus de précisions avec Freddy Bikumbi.
À l'ouverture des travaux, le ministre provincial des Mines, Anselme Kitaka, a parlé de l'impact de l'activité minière par rapport au développement socio-économique de la province du Nord Kivu. Pour lui, l'exploitation est encore artisanale avec 11 coopératives minières, tout en signalant que l'exploitation industrielle n'est qu'à son début. Il a fait remarquer que l'insécurité sur les sites miniers, la fluctuation des prix du coltan, de la cassitérite et du wolframite ont joué sur la production et l'exportation de ces métaux précieux. Par ailleurs, le Nord Kivu étant les réservoirs d'une gamme variée des ressources minérales, leur exploitation a eu des répercussions sur l'environnement de cette province, a indiqué le ministre provincial de l'Environnement, Kanyamanza Musaba. Si deux rivières sont polluées dans les Masisi et Rutshuru, l'exploitation des minerais laisse aussi des terres nues, notamment sur les sites de Walikale, avec comme effet la dégradation des écosystèmes, souligne le ministre. Il a aussi relevé le fait que dans les sociales, certains enfants ont abandonné les études pour embrasser l'activité de creusage des minerais dans certains villages du Nord Kivu. Pour lui, s'il faut restaurer les écosystèmes détruits, les exploitants miniers devront prendre en compte les reboisements des sites miniers et, au préalable, procéder aux études environnementales avant toute exploitation. Les travaux continuent en panel sur l'artisanat minier et la mise en œuvre de la chaîne d'approvisionnement des minerais. Goma, Freddy Bikumbi, Écho d'économie.
Et puis cette mésentente observée depuis 2 semaines entre l'entreprise Kibali Gold Mine et les habitants du quartier Nyanga de la cité des Durba. Nous sommes là dans le territoire de Wacha, situé à plus de 700 km au nord-est de Kisangani, dans la province du Haut-Uele. Selon la société civile locale, ces paysans, environ 6000 voisins de la concession de Kibali Gold Mine, refusent de se déplacer pour quelques heures afin de permettre à cette entreprise minière de miner les roches pour l'exploitation de minerais. Anselme Massoua nous en dit plus.
La société Kibali Mine s'est dit bloquée par la population d'Ngania pour faire normalement son travail dans cette partie de sa concession. Selon son département du social, les enquêtes menées nécessitent un déplacement momentané de la population pour éviter des dégâts humains lors des explosions des rochers. Néanmoins, Kibali Gold Mine s'engage à prendre en charge tous les dégâts matériels tels que la destruction d'habitats qui pourraient survenir lors de l'opération, déclare le chef de ce département. Par rapport au refus des paysans, la société civile locale pense que les habitants d'Ngania cherchent a tiré gain de cause sur cette opération. Personne d'entre eux ne manifeste la volonté de se déplacer. Tous se disent prêts à supporter les conséquences néfastes de ce minage de roches, dit-elle. L'administrateur du territoire, Innocent Makanda, qui assure la médiation entre les deux parties, promet de faire appel aux agents de l'ordre au cas où les habitants de Ngania ne se plieraient pas lors de la prochaine rencontre prévue à la fin de cette semaine. Kisangani, Anselme Massoua, Radio Okapi.
Parlons de la problématique de la faillite à la Banque internationale pour l'Afrique au Congo, BIAC, qui a refait surface hier mercredi à l'Assemblée nationale. Sera-t-elle liquidée ou vendue à un actionnaire chinois? L'Assemblée nationale a opté pour l'interpellation du gouverneur de la Banque centrale du Congo afin d'apporter plus d'éclaircissements sur cette question. Selon l'initiateur de cette motion d'interpellation, le député Henri Thomas Lokondo, la BIAC rêvait d'une importance capitale au regard du capital social investi dans cette banque, qu'il faille suivre de près à l'issue de cette faillite.
Nous suivons à travers la presse que les actionnaires de la DIAC veulent la liquider, avec toutes les conséquences que vous pouvez bien imaginer sur le plan social. Et d'un autre côté, il y a la Banque Centrale du Congo qui gère maintenant la DIAC, ne veut rien entendre parler de la dissolution, parce qu'elle estime qu'elle a obtenu un repreneur, une banque chinoise peut redynamiser la DIAC. Et les gens qui ont leur argent, les déposants, sont inquiets parce qu'ils ne parviennent pas jusqu'à présent à voir la totalité de ceux qui peuvent le tirer. Vous le savez, la DIAC, c'est une banque qui a un réseau important à travers le pays. C'est la banque qui paye les fonctionnaires à travers le pays, les militaires, les policiers. Alors, si on ne parvient pas à trouver une solution définitive, nous risquons d'avoir un problème social grave. C'est pourquoi j'ai demandé que le gouverneur de la Banque centrale puisse venir et qu'il nous fasse le point de la situation. Et c'est ce qui a été accepté par les collègues. Et je crois que le bureau va programmer son audition d'ici 2 jours au maximum.
Quelques nouvelles en bref. À Bafoussende, les opérateurs économiques de cette entité ont suspendu ce jour la menace des grèves annoncée depuis le 21 novembre dernier suite à la hausse du taux de l'impôt personnel sur le revenu. Selon leur président, la levée de cette mesure est consécutive à une entente survenue entre les bureaux locaux de la Direction générale des impôts et les opérateurs économiques par rapport à cette pomme de discorde. Toujours selon lui, les opérateurs économiques doivent être sensibilisés suffisamment avant l'application de la nouvelle tarification annoncée par la DGI dans les territoires. Rappelons que le taux qui leur avait été annoncé est multiplié par 4 par rapport à celui payé en 2014. À cette époque, les taux de l'IPR étaient fixés à 2 dollars mensuellement pour un vendeur et 4 dollars pour un tenancier. Et puis une vingtaine de villages du groupement Moachin sur la route Lubumbashi-Likasi, territoire de Cambové, ont reçu ce jeudi des semences dans le cadre de villages agricoles. La distribution a été organisée par le ministère de l'Agriculture, Pêche et Élevage du Haut-Katanga. Environ 1200 ménages en sont bénéficiaires. Selon le chef du site village agricole de Kapoloé, chaque ménage reçoit un sac de 25 kg de semences améliorées de maïs, 6 sacs d'engrais et 4 sacs d'urée. Pour assurer le bon encadrement des agriculteurs, les agronomes locaux ont été formés pendant 15 jours par le service de l'agriculture, pêche et élevage de Cambové.
Écho d'économie.
Pour terminer, le bureau de liaison avec le Parlement, une structure de la CENCO, attendait conférence épiscopale nationale du Congo, a organisé hier mercredi à Lubumbashi, dans le Haut-Katanga, une tribune d'expression populaire sur les thèmes contribution de la population à la lutte anti-fraude, anti-corruption, en vue de la politique fiscale et parafiscale, de maximisation des recettes dues au trésor public. Différentes couches de la population y ont pris part. Le coordonnateur de la brigade anti-fraude a expliqué les fonctionnements et la structuration de son service. Victor Balibois a fait savoir que la lutte contre la fraude est une affaire de tous. Karine Topé pour les détails.
Pour ce bureau de liaison avec le Parlement, l'obstacle majeur à la promotion du bien-être commun et du développement intégral en RDC reste à mobiliser suffisamment des ressources pour fournir aux populations des services publics de qualité. La difficulté à maximiser les recettes tient du fait de la fraude et de la corruption. Ainsi, le coordonnateur de la brigade antifraude, l'orateur principal, a expliqué à l'assistance que son bureau a pour rôle d'assurer la sécurité économique de la province, de lutter contre la tracasserie des opérateurs économiques, d'assurer la promotion des hommes d'affaires contre la tracasserie, de promouvoir l'accroissement des recettes provinciales et celles à caractère national. Pour Victor Balibois, il est certes difficile de mettre fin à la fraude, mais il a aussi soutenu qu'il est possible de la réduire sensiblement, d'où son appel à l'implication de toutes les couches de la population.
Pour être à la hauteur, seul ne pourront pas, mais la population qui s'est constituée à la viseur ou en informateur à terme clair nous donne des informations sur ce qu'ils trouvent des suspects, sur ce qu'ils considèrent comme fraude.
Pour le ministre près le gouverneur Justin Kiela, qui chapeaute cette brigade, le gouverneur avait créé cette brigade pour renforcer l'assiette fiscale de la province. Lubumbashi, Karine Topéridassi, Radio Kapi.
Voilà, c'est la fin de ce magazine. Merci de nous avoir suivis.